This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20, ce soir à Moscou, où un gigantesque programme de relogement provoque la colère des moscovites. Nous serons également à Bruxelles et Jérusalem, revue de presse des correspondants de France Inter. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger est sur les raisons cachées de la fronde saoudienne contre le Qatar. Mais d'abord, une élection ô combien incertaine, les législatives britanniques.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Ce devait être pour elle le moyen facile de renforcer sa majorité et ainsi avoir les coudées franches pour négocier les termes du Brexit. Sauf que ces élections anticipées sont donc beaucoup plus compliquées que prévu pour Theresa May. 3 attentats en 3 mois sur le sol britannique, le dernier il y a 5 jours à Londres, une mauvaise campagne électorale, des choix tactiques douteux, et voilà l'avance des conservateurs de la première ministre qui s'écroule face aux travaillistes de Jeremy Corbyn. Les Britanniques votent jusqu'à 23h ce soir, heure française. Aucune estimation d'ici là. Mais on peut tout de même déjà analyser les enjeux de ce scrutin avec nos deux invités. Ici en studio, Pauline Schnapper, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Et en ligne de Londres, Dominic Grieve, député conservateur britannique, responsable du comité de renseignement et de sécurité du Parlement. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, j'aimerais qu'on plante précisément le décor. Bonsoir Antoine Gignot, correspondant d'Inter à Londres.
Bonsoir.
Alors d'abord évidemment, à l'heure où l'on parle, Antoine, comment se déroule ce scrutin ?
Il continue, les Britanniques continuent de voter. Theresa May a été aperçue ce matin un peu empruntée dans sa veste blanche, coup d'œil crispé aux journalistes. Les conservateurs ont d'ailleurs cet après-midi envoyé un message électronique à tous leurs sympathisants, un mail dans lequel il est écrit « Les résultats seront sans doute très serrés, plus que jamais, toutes les voix comptent ». Ambiance un peu différente pour les travaillistes. La gauche, partie avec 20 points de retard, a désormais entre 4 et 11 points de retard seulement. Jeremy Corbyn, le chef de file, était ce matin devant le bureau de vote de son quartier dans le nord de Londres, cocarde et cravate rouge, pousse en l'air un grand sourire sur le visage. Et puis, parmi les photos du jour, celle aussi de Nicola Sturgeon, la chef de file des indépendantistes écossais, qui risque gros dans cette élection. Ils ont pour l'instant 56 sièges à Westminster. Selon les sondages, ils pourraient en perdre 12 à 15. Si leur poids diminue, ils auront du mal à continuer à s'opposer frontalement au Brexit.
Bon alors, question évidemment que tout le monde se pose, Antoine, Theresa May peut-elle perdre son pari ?
C'est une possibilité. Ce scrutin, c'était en théorie la dernière étape pour Theresa May. Le vote qui était censé lui permettre d'avoir les mains libres pour négocier le Brexit. Lorsqu'elle a convoqué les élections, l'opposition travailliste était affaiblie par ses querelles internes. Désormais, Theresa May cherche surtout à préserver sa majorité absolue. 326 sièges sur les 650 que compte la Chambre des communes. La campagne électorale a été agitée. Theresa May a fait des erreurs de communication. Peu de grands meetings, des interviews dans lesquelles elle a été mise en difficulté. Les Britanniques ont retenu ces mesures en faveur de l'austérité, ces mesures impopulaires comme l'obligation pour les personnes âgées de contribuer à payer leurs soins de santé. Et puis son idée première, celle de se présenter comme la meilleure personne possible pour négocier le Brexit, a un peu disparu, balayée par les attentats qui ont fait totalement disparaître le débat sur l'Europe au profit d'un débat sur la sécurité, avec des attaques de la gauche qui reprochent à Theresa May d'avoir supprimé 20 000 poste dans la police lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur.
Bon, et finalement, Antoine, est-ce que le vrai vainqueur, quel que soit le résultat, et je dis bien quel que soit le résultat, ne serait pas Jeremy Corbyn ?
Absolument, une véritable résurrection, même si c'est une défaite pour le Labour. Le chef de file de la gauche était, il y a quelques semaines, totalement ostracisé, traité d'extrémiste. Un Hugo Chavez sous stéroïdes, écrivait le Télégraphe. Son parti est désormais crédité de 35% des intentions de vote. Il pourrait faire mieux qu'Ed Miliband en 2015 et Gordon Brown en 2010. Deux explications à ce retournement de situation. D'abord, le manifeste publié par le Parti travailliste qui affirme qu'il veut défendre le système de santé et les services publics. Et puis, la jeunesse, première cible de la campagne électorale. Jeremy Corbyn s'est rendu dans près de 100 localités différentes pour y rencontrer essentiellement des jeunes. Et sur les réseaux sociaux, ce soir, il y a des dizaines de photos d'étudiants qui font la queue, plusieurs dizaines de minutes parfois, pour voter à Oxford ou à l'université de Norwich House.
Antoine Gignot, en direct de Londres, merci. Pauline Schnapper, vous écoutiez notre correspondant à Londres en direct, et je voyais faire non, 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 non à la question, Theresa May peut-elle perdre cette législative ?
Alors, avec toute la prudence qui s'impose quand on a à disposition que des sondages dont on a vu que la fiabilité était très relative, je crois quand même qu'il y a très très peu de chances, je m'avance ici, que Theresa May perde cette élection. La question est plutôt de savoir de combien elle va la gagner, c'est-à-dire si elle va vraiment renforcer sa majorité au Parlement d'un nombre conséquent de plusieurs dizaines de sièges, ou si elle va rester soit au niveau actuel, soit gagner simplement quelques sièges. Ce qui, compte tenu du contexte qui vient d'être expliqué, serait quasiment une défaite pour elle, si vous voulez. Mais enfin, il faut quand même relativiser. Personne n'envisage, aucun sondage jusqu'à aujourd'hui, n'a envisagé une victoire du Parti travailliste. Donc il faut quand même garder ça en tête, il me semble.
Mais souvenons-nous aussi qu'il y a 2 ans, donc lors des dernières législatives, les sondeurs britanniques s'étaient totalement plantés. Je ferme la parenthèse. Comment jugez-vous ces 7 semaines de campagne, d'abord pour Theresa May et ensuite pour Jeremy Corbyn?
Alors, ce qui est vrai, c'est que la campagne ne s'est pas du tout déroulée comme ça avait été prévu par Theresa May elle-même, bien sûr, mais même plus généralement par les commentateurs. Theresa May a fait cette tentative, ce choix de provoquer des élections législatives parce qu'elle disposait d'une avance considérable dans les sondages. Et donc, tout le monde pensait que c'était une manœuvre politique plutôt maligne, si vous voulez, plutôt bien vue, et qu'effectivement, elle pourrait nettement améliorer sa majorité. Or, ce qui s'est passé, et votre correspondant l'a tout à fait bien décrit, c'est qu'elle a fait une bien moins bonne campagne que prévu. D'une part, que Jeremy Corbyn, il faut dire, partait de tellement bas qu'il a plutôt fait une meilleure impression que ce à quoi on s'attendait. Donc, il a fait, lui, plutôt une bonne campagne. Et puis, il y a eu, bien sûr, l'effet de ces 2 attentats de Manchester et de Londres, qui est très difficile à évaluer. Je crois qu'on peut-être après, demain, on pourra essayer de l'analyser. Mais qui, en tout cas, a bouleversé, disons, la dynamique de la campagne.
Évidemment, s'y arrêter. Dominic Grieve, vous êtes député conservateur, donc du même parti que Theresa May. Quelles ont été, selon vous, ces fautes de campagne?
À mon impression, c'est que toutes les campagnes électorales auxquelles j'ai participé, c'est mon 7e, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, je n'ai pas l'impression qu'en fin de compte, cette campagne électorale a été un désastre, où il y a eu de grosses erreurs. Mais il est vrai que la campagne ne s'est pas déroulée avec les attentats, particulièrement le 2e attentat, celui de Londres. Ça a inscrit un nouveau note dans la campagne et le résultat, c'est qu'il y a certainement des incertitudes sur le résultat. Mais je suis quand même assez confiant qu'elle avait choisi d'aller aux urnes parce qu'elle voulait d'abord une plus forte majorité et deuxièmement, elle voulait remettre la date des élections prochaines de 2020 à 2022. Ce qui est essentiel pour elle, pour la négociation du Brexit, et pourvu qu'elle puisse obtenir une majorité qu'elle peut utiliser, qui n'est pas en risque tout le temps, elle aura fait ce dont elle a besoin.
Mais pensez-vous, Dominic Grieve, pardonnez-moi, que les attentats ont de facto rebattu les cartes de cette campagne?
C'est un peu plus compliqué. Le problème, c'est que le Brexit, l'année dernière, a été un événement révolutionnaire. Et quand on provoque des révolutions, ça produit toujours de l'instabilité. Et on ne sait jamais où exactement le public va aller. Donc il y a un public qui est anxieux au Royaume-Uni en ce moment, anxieux du futur, anxieux du terrorisme, anxieux du Brexit. Et à mon opinion, cherche parfois des solutions faciles quand il n'y en a pas. Et ça, je crois que c'est le défi pour Theresa May, parce qu'elle veut rassurer son public, elle veut montrer ses compétences, qu'elle puisse bien négocier le Brexit et gérer le pays. Et il y a une campagne qui a été menée par Jeremy Corbyn, qui est dans un sens une campagne de l'extrême gauche du point de vue des dépenses publiques, qui a eu un retentissement avec une section du public qui ont assez de l'austérité qui vient depuis la chute financière de 2008. Donc c'est un débat, mais à mon opinion, je crois qu'elle va en sortir avec un gouvernement durable et c'est pour elle l'essentiel.
Pauline Schnapper, les critiques tout de même contre Theresa May sur la gestion justement de ces attentats ont été dures, y compris parfois dans son propre camp.
Oui, de façon d'ailleurs plus ou moins réaliste. Enfin, c'est difficile évidemment de savoir, mais c'est en fait les critiques sont apparues après le deuxième attentat, pas le premier. D'abord parce qu'elle-même a essayé, il faut bien le dire, de jouer politiquement de ce deuxième attentat, en annonçant des mesures répressives, de nouvelles législations antiterroristes, mais aussi parce qu'on s'est mis à lui reprocher les coupes budgétaires qui avaient été faites dans le budget de la police, alors même qu'elle était donc ministre de l'Intérieur pendant 6 ans. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait rien eu là-dessus avant, ni après l'attentat de Manchester, ni encore avant celui de Westminster. Donc la question est apparue à ce moment-là.
C'est une fantastique brèche pour Corbyn.
Oui, en même temps, qui peut prouver que les attentats terroristes auraient pu être évités avec quelques milliers de policiers en plus ? Personne. Donc, en revanche, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que ça fait ressortir ce dont Dominic Gray vient de parler, et qui est un élément très important qui avait déjà, qui était apparu avec le référendum de l'an dernier, c'est que la population, une bonne partie de la population britannique, souffre depuis 2010 de ces mesures d'austérité, et il y a un moment donné où ça devient insupportable pour beaucoup de gens. Et je crois que effectivement, le succès relatif de Jeremy Corbyn ces dernières semaines vient quand même de là. Et le vote pour le Brexit, indirectement, c'est aussi le résultat de ce rejet de l'austérité, des baisses des salaires, des difficultés dans les hôpitaux, les écoles, etc.
Dominic Grieve, quand vous êtes en campagne, quand vous êtes sur le terrain, dans votre circonscription, vous sentez ces critiques qui remontent contre la politique d'austérité ?
Non, pas dans ma circonscription où je suis situé en ce moment en vous parlant. Je pense que nous allons voir des variations assez grandes dans le pays. J'ai fait la campagne électorale non seulement dans ma propre circonscription, mais autre part. Et mon impression, c'est que les résultats vont être influencés par les régions et par les attitudes envers le Brexit, envers la politique de l'extrême gauche de M. Corbyn. M. Corbyn se plaint des attentats. Il y a seulement 2 ans que lui et McDonald, qui est son adjoint, voulaient l'abolition du service de sécurité MI5 et disaient que la police ne devait plus être armée. Donc ils ne sont pas en très bonne position dans certaines parties du pays de demander l'appui de l'électorat. Et le problème de M. Corbyn, c'est que dans des circonscriptions travaillistes traditionnelles du Midlands et du nord de l'Angleterre, on a l'impression que c'est une hémorragie de votes qui vont quitter le parti travailliste. Tandis que, par exemple, à Londres, on a la tendance de voir le revers. Donc, c'est une élection générale très compliquée. Dans ma circonscription, qui fait partie d'une région économique prospère, qui est d'ailleurs une des forces motrices de l'économie du Royaume-Uni, je ne vois pas là une demande que la politique économique du gouvernement soit changée.
Mais là, Pauline Schnapper, on retrouve les mêmes lignes de fracture que lors du vote pour le Brexit.
Oui, un peu. C'est-à-dire, alors, ce qui est intéressant, effectivement, le problème pour le Parti travailliste, c'est que c'est les endroits où traditionnellement il était fort, c'est-à-dire dans le nord de l'Angleterre, ont beaucoup voté pour le Brexit. Et donc ce sont souvent des régions relativement pauvres, hein, à l'inverse du sud prospère dont parlait Dominic Grieve. Dans le nord et dans les Midlands, on a là des régions appauvries, alors pauvres depuis longtemps, mais appauvries aussi par les mesures d'austérité, il faut quand même le dire, et par les réductions des dépenses publiques en particulier, qui ont abouti à un rejet de l'immigration, qui a été très fort, qui s'est senti très fortement au moment du vote du Brexit. Et aujourd'hui, on ne sait pas si ces populations vont continuer à voter pour les travaillistes ou si elles ne vont pas se tourner vers les conservateurs, c'est évidemment ce qu'ils espèrent, parce qu'ils leur font plus confiance pour négocier le Brexit.
Il y a un autre aspect crucial hein, dans ce scrutin, c'est le vote des jeunes. On a vu que ce coup de barre à gauche toute des travaillistes a séduit quand même une grande partie de cette jeunesse britannique. Ce sera un élément clé ?
Alors, ce sera un élément clé si les jeunes votent. car un des problèmes du Parti travailliste actuellement,
ouais, c'est l'abstention,
c'est que son électorat, l'électorat Corbyn, j'allais dire, pas l'électorat traditionnel, qui était plus âgé, en provenance donc de ces régions industrielles ouvrières du Nord, mais l'électorat actuel de Jeremy Corbyn est un électorat jeune, qui vote beaucoup moins que les personnes plus âgées. On l'a vu au moment du Brexit, ce sont les personnes âgées qui ont voté pour le Brexit, et les jeunes qui ont voté contre, mais les jeunes étaient beaucoup moins nombreux que les vieux, si je puis dire. Donc on va peut-être, ça va être un des enjeux du scrutin de demain, voir cette même division démographique, si vous voulez, qui pourrait jouer évidemment en faveur des conservateurs.
Dominic Grieve, quel serait l'impact d'un résultat très serré? Alors certes une victoire de votre camp, les conservateurs, mais une victoire très serrée, quel serait l'impact sur les futures négociations du Brexit?
Je crois qu'en court terme, il n'y aura pas d'impact du tout. En moyen terme, une forte majorité pour Madame May lui permettra, à la fin des négociations, d'avoir une plus grande marge de manœuvre envers le parti s'il y a des désaccords au sein du parti sur l'accord pour le Brexit. Mais à part ça, au moyen et court terme, rien. Parce que, comme nous avons vu dans l'année qui vient de passer, avec une majorité sur papier de 12 voix, elle a pu gouverner sans difficulté.
Pauline Schnapper, même question.
Oui, tout à fait. Moi, je crois aussi que 10 députés conservateurs de plus ou de moins ne feront pas une grande différence dans la négociation. Ce qui va se jouer vraiment à Bruxelles dans les 18 mois qui viennent, c'est bien sûr la posture que va adopter Theresa May, l'attitude qu'elle aura, la recherche ou pas de compromis, et puis bien sûr la dynamique qui va s'enclencher ou pas avec les 27. Pour l'instant, on démarre des négociations plutôt difficiles. A priori, on part de positions très très différentes. Vous me direz, c'est classique dans un début de négociation. Donc toute la question, c'est plutôt comment vont se dérouler ces négociations à Bruxelles, plutôt, en tout cas, effectivement à court terme, que la majorité, la taille de la majorité qu'aura Theresa May à Westminster.
Imaginons, ce sera ma dernière question, une victoire, une fois encore, ultra courte. Est-ce que Theresa May pourrait être menacée au 10 Downing Street ou pas du tout?
Je ne pense pas, en tout cas encore une fois pas à court terme. C'est très difficile, si vous voulez, aujourd'hui, de savoir à quoi ressemblera d'une part l'économie britannique dans un an, et les négociations du Brexit. C'est là, je pense, les deux aspects les plus importants qui auront une incidence sur l'autorité de Theresa May, sur son gouvernement et sur son parti. Donc là, aujourd'hui, c'est très difficile de dire, et je pense que ça dépendra encore une fois plus de la situation économique et de ses négociations que de la taille de sa majorité.
Oui, ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Grand merci à vous et good luck, Dominic Grieve, député britannique, responsable du comité de renseignement et de sécurité du Parlement. Merci à tous les deux. La revue de presse des correspondants de France Inter.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Bonsoir.
Et l'on poursuit notre tour du monde des envoyés spéciaux.
Bonsoir Michael et bonsoir à tous.
La revue de presse des correspondants de France Inter qui nous emmène donc ce soir à Bruxelles, mais d'abord en Israël. Bonsoir Étienne Menin.
Bonsoir Michael.
Correspondant permanent de France Inter à Jérusalem. Alors chez vous, en Israël, c'est l'attaque terroriste en Iran qui fait la une.
Oui, la photo dans les principaux journaux est visible. C'est cette image de fragilité avec le sauvetage à bout de bras d'un enfant. L'Iran, c'est l'obsession affichée du Premier ministre israélien. Il a juré de tout faire pour annuler l'accord de Genève. Les spécialistes de la sécurité tentent donc à la une du Jérusalem Post de mesurer l'impact général de cette attaque. Mais c'est sans doute un peu trop tôt. Ce que l'on en retient, c'est le pronostic que c'est sans doute la branche sécuritaire qui en sortira renforcée en Iran. L'autre dossier régional qui intéresse aussi Israël de près, c'est le cordon sanitaire posé autour du Qatar. Cette crise risque d'isoler encore plus le Hamas dans la bande de Gaza, avec le risque d'une nouvelle flambée de violence. D'après l'analyse du Haaretz, Gaza est déjà très mal en point. L'enclave subit une très grave crise énergétique. Les habitants ont 4 heures heures de courant par jour. Les hôpitaux et le système sanitaire sont menacés. Dans ce tableau, l'affaiblissement du Qatar pourrait aggraver la crise. Haaretz considère que le pays était le dernier véritable soutien de Gaza. Ce cumul des difficultés inquiète les services de sécurité israéliens, raconte le journal. Il n'écarte plus la possibilité d'un affrontement cet été qui marque les 10 ans du blocus et les 50 ans du début de l'occupation.
Une nouvelle histoire également de no-go zone, mais elle est bien vraie celle-ci, et elle est provoquée par les juifs ultra-radicaux, Étienne.
Et la justice essaye de mettre du droit dans cette zone de ségrégation. On parle de certains quartiers dans la ville de Beth Shemesh, à une trentaine de minutes de route de Jérusalem. Depuis des années, on trouve dans ces secteurs, donc certains quartiers de la ville, des affichettes qui imposent un code vestimentaire aux femmes et qui interdisent leur présence dans certaines rues à proximité des synagogues. 5 femmes ont donc saisi la justice. Elles sont elles aussi religieuses. Elles se plaignent de cette discrimination et de la violence exercée par ces ultra-orthodoxes. La justice demande maintenant à la mairie de décrocher ces affichettes. Les tribunaux avaient déjà statué de la même façon il y a 2 ans. La municipalité n'avait rien fait. L'armée, la police craignent, paraît-il, la violence également de ces ultra-orthodoxes qui font de leur quartier des zones de non-droit ou plutôt des zones de droit divin.
Enfin, à l'occasion des 50 ans de la guerre des 6 jours, la presse israélienne révèle l'existence d'un plan à l'époque qui envisageait l'usage de la bombe atomique si les choses avaient mal tourné pour Israël.
L'histoire a été racontée il y a longtemps déjà, mais comme toujours quand on parle de l'arme nucléaire en Israël, il faut que les éléments viennent de l'étranger, la presse locale étant soumise à la censure intérieure. Les éléments viennent d'un des fondateurs du programme d'armement de l'armée, Itzhak Yaakov. Ce qu'il explique, c'est que avant le déclenchement de l'offensive des Israéliens, ils sont inquiets, l'establishment est inquiet, il veut pouvoir réagir à une éventuelle attaque chimique de l'Égypte. Israël envisage donc toutes les défenses, y compris l'utilisation de l'arme atomique. Le plan consiste à placer une ogive en haut d'un sommet dans le Sinaï. Le nom de code, c'est araignée. Le chef d'état-major Itzhak Rabin avait signé l'ordre à l'époque. Le premier ministre n'a jamais appuyé sur le bouton. C'est resté totalement théorique, mais on apprend donc qu'à cette époque, pour la première fois dans son existence, Israël a envisagé l'utilisation de l'arme atomique en cas de péril.
Étienne Menin, en direct de Jérusalem, et de Jérusalem à Luxembourg et non Bruxelles, comme je l'ai annoncé, puisque vous êtes en déplacement, mon cher Quentin Dickinson, bonsoir.
Bonsoir Michael, bonsoir Olivier et bonsoir à tous.
En déplacement pour cause bien sûr de réunions européennes dans la capitale de l'unique grand-duché au monde. Alors Quentin, la presse luxembourgeoise, on a vite fait le tour, non ?
Ah non, détrompez-vous. On pourrait en effet croire que la presse luxembourgeoise est à l'échelle du pays, mais il n'en est rien. Ici, l'audiovisuel, comme l'écrit et l'internet, se portent plutôt bien, et l'on a assisté depuis 20 ans à des créations plutôt qu'à des disparitions de titres.
Ouais, les quotidiens du CRU titrent comme tout le monde sur les élections législatives au Royaume-Uni.
Pas tous, mais en tout cas le Tageblatt, Desch sur LZ, se risque-t-il à une manchette sous forme de jeu de mots anglophone, maybe, maybe not. Plus sobre, le Letzebourg Journal titre sur le coup de poker électoral de Madame May. Pour le reste, on voit apparaître des sujets davantage d'intérêt local. Le Luxemburger Wort note que le cumul des mandats politiques n'épouvante pas grand monde ici et que dans la perspective des prochaines élections municipales, pas moins de 32 des 60 députés actuels sont candidats et qu'en cas d'élection, eh bien, ils pourront conserver leur siège au Parlement. L'affaire du jour, qui inquiète considérablement les luxembourgeois, c'est le projet allemand de péage autoroutier par vignette, comme le rappelle le quotidien L'Essentiel, ainsi que la plupart de ses confrères. Pour l'heure, toute plainte est suspendue dans l'attente d'une clarification juridique de la part de la Commission européenne, laquelle, de son côté, caresse depuis longtemps l'idée d'un péage européen unique et unifié. Autre sujet que l'on retrouve dans plusieurs journaux aujourd'hui, les projets de défense européenne dont nous parlions à ce même micro hier soir. Un rien dubitatif, le Tageblatt estime que Bruxelles rêve d'une Europe puissance militaire, alors que le Letzebourg Journal souligne le potentiel énorme de cette initiative.
Et est-ce que la presse du Luxembourg évoque le cas Trump de Quentin ?
Oui, bien sûr, le Wort publie en une un entretien avec un expert fiscaliste pour qui Trump se prépare un deuxième fiasco type sorti des accords de Paris sur le climat. Ce serait sa réforme fiscale, promesse électorale de premier plan, mais actuellement sérieusement encalminée. Ailleurs, dans l'éditorial du Zeitung vom Letzeburger Volk, on estime que la réorientation américaine vers l'Asie-Pacifique est désormais à classer comme échec.
Autre sujet du jour chez nos amis grands-ducaux.
Alors oui, en vrac, l'aéroport de Luxembourg-Findel s'agrandit. 800 bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées dans tout le pays pour 2020. L'isolement du Qatar pourrait avoir des conséquences, mais limitées pour la place financière de Luxembourg, et oui. Et pour les étrangers et les citoyens amnésiques, un rappel, la fête nationale, c'est ici le 23 juin.
Quentin Dickinson, en direct du Luxembourg. Merci.
24 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et à 18h42, c'est Ailleurs dans le Monde avec vous, Olivier Poujade. Bonsoir.
Bonsoir, Mickaël.
Et nous partons en Russie ce soir. Russie où un programme de relogement met les habitants de Moscou franchement en colère.
Oui, pratiquement tous les week-ends, des milliers de moscovites manifestent contre un gigantesque projet d'urbanisation qui prévoit la destruction de leurs immeubles, Mickaël. Des bâtiments que l'on appelle là-bas les Khrouchtchevki. Bonsoir, Claude Brouillot.
Bonsoir.
Khrouchtchevki, Claude, car ces bâtiments ont été construits évidemment à l'époque de Nikita Khrouchtchev dans les années 50 et sont aujourd'hui appelés à disparaître de la capitale russe.
Oui, et derrière les pans de béton gris, un pan d'histoire, les Khrouchtchevki sont sortis de terre au début des années 50 dans les grandes villes du RSS. Beaucoup de logements collectifs étaient à l'époque surpeuplés. Alors Nikita Khrouchtchev ordonne un grand plan de relogement à l'époque basé sur la construction de milliers d'immeubles de 5 étages à l'intérieur de petits appartements individuels de moins de 50 mètres carrés avec une petite cuisine, deux petites chambres et parfois un petit salon quand la famille n'est pas trop nombreuse. Cet univers de 8000 immeubles pour le seul Grand Moscou va donc disparaître pour moitié dans les mois à venir et conduire à reloger des centaines de milliers de personnes avec deux obstacles principaux. Premièrement, beaucoup d'habitants des Khrouchtchevki qui ont mis toutes leurs économies dans la rénovation de leur appartement sont très en colère à l'idée d'être obligés de le quitter alors qu'ils ont acquis le confort nécessaire. Et deuxièmement, malgré la consultation officielle lancée auprès des habitants, eh bien, les lieux et conditions de relogement sont imprécis et motivent les craintes, comme l'explique Natacha, dont l'immeuble sera détruit dans les mois qui viennent. Natacha qui a préféré répondre à nos questions par téléphone.
J'ai voté pour quand j'ai appris que dans mon quartier, il y avait un programme de destruction qui prévoit la création d'une route à la place de mon immeuble. On ne sait pas où nous serons logés, mais on nous a dit que les propriétaires d'appartements qui voteraient pour la loi seront relogés juste à côté. Si on vote contre, on peut se retrouver loin. J'avais peur que ce ne soit pas à Moscou, mais en banlieue.
Il y a presque une forme de chantage, hein, Claude, dans ce que décrit Natacha quand elle parle de cette consultation officielle. Est-ce qu'on a une idée, malgré tout, du résultat de la consultation ?
Alors, Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, a annoncé en début de semaine 88% d'avis favorables. Mais quand on sait que les habitants concernés qui ont décidé de ne pas voter sont tout de même considérés comme autant de voix pour le projet et que les votants peuvent s'exprimer via Internet, ce résultat provisoire reste sujet à caution. En tous les cas, les opposants à la destruction de ces immeubles ne lâchent pas, comme Natalia, habitante d'un Khrouchtchevki au sud de Moscou, même si elle sait, elle aussi, qu'elle devra sans doute partir.
Telle que la situation se présente, je n'ai pas le choix. Concrètement, il y a le texte de loi et la liste des bâtiments à détruire, et le reste, ce ne sont que des promesses. Il y a plusieurs sortes de Khrouchtchevki, et il y a aussi les Stalinski. Moi, je n'ai pas pu aller à la réunion d'information à la mairie d'arrondissement, mais ma voisine, elle, y est allée, et là-bas, on lui a dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais de toute façon, votre immeuble sera détruit. »
Et alors, même si le projet, donc, on l'a compris, a toutes les chances d'aboutir, Claude, et que ces moscovites seront sans doute obligés de partir, leur mécontentement, lui, ne va-t-il pas s'installer ?
Écoutez, c'est le calcul notamment d'Alexei Navalny, le principal adversaire politique de Vladimir Poutine, qui a soutenu les manifestants opposés à la destruction de leurs immeubles. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières municipales à Moscou, à la surprise générale, Navalny avait rassemblé près de 30% des suffrages en 2013. En fait, beaucoup dépendra de la réussite du volet relogement de ce vaste programme et évidemment de la communication officielle qui en sera faite.
Merci à vous, Claude Brouillot, correspondant de France Inter en direct de Moscou.
Et décidément, Olivier, les bâtisseurs n'ont pas la cote en ce moment. Autre illustration, on part maintenant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Côté mexicain, Mickaël, où le projet du mur de Donald Trump fait toujours couler beaucoup d'encre. Cette fois, c'est l'ancien président mexicain Vicente Fox qui s'y colle.
Mexico will not pay for the fucking wall.
The fucking wall, hein. Voilà, même si le mur de Donald Trump a aujourd'hui peu de chance hein, d'être érigé. Dans cette vidéo postée sur le site Super Deluxe, Fox ironise et provoque le président américain. Il montre par exemple à la caméra la solution toute simple qu'il a trouvée sur Internet pour franchir le mur.
C'est une échelle Einstein. Tu vas construire un mur de 25 milliards de dollars que l'on pourra enjamber avec une échelle à 25 dollars. Donald, franchement.
Le jeu d'acteur est parfait. Hein. Fox tente de raisonner Trump comme s'ils étaient de vieux potes et lui donne quelques conseils pour mieux dépenser son argent.
Pour 25 milliards de dollars, tu peux fournir de l'eau potable à toute la planète pendant 3 ans. N'est-ce pas un meilleur héritage à laisser que cet inutile mur de la haine? Mais je sais que l'eau, ce n'est pas ton truc. Tu préfères boire du Coca Light, ce qui entre nous ne fonctionne pas vraiment. Donc, voici d'autres options pour les 25 milliards. Tu pourrais mettre un terme à la faim dans le monde pour un an ou employer 50 000 professeurs pendant 10 ans.
Message ponctué d'une dernière provocation, d'un très solennel au revoir en russe dans le texte.
Das vidania, camarade.
Allusion au lien présumé entre l'équipe de Trump et Moscou, évidemment, pendant la campagne américaine. Le savoureux, très savoureux message, Michael, de Vicente Fox à Donald Trump à retrouver sur le site Super Deluxe.
Ah, il est impressionnant.
Ah, extraordinaire.
Hein, impressionnant. Fucking wall. Merci, Olivier Poujade.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Michael Thébault.
Oh my God!
Sur France Inter.
Et à 18h48, on parle musique avec les Montréalais d'Arcade Fire qui donnaient lundi dernier leur premier concert en France. C'était à Lyon. Tournée qui annonce un nouvel album événement. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Alors Arcade Fire, que vous avez pu rencontrer à cette occasion et qui parle pour la première fois, et là j'insiste, pour la première fois de ce nouveau disque, Mathieu.
Eh oui, Everything Now, c'est le nom de ce nouvel album. Un album qui sortira le 28 juillet prochain. Un disque qu'ils ont enregistré aux États-Unis mais aussi en France. Un album qui s'est nourri eh bien, de la sombre actualité ambiante, comme l'expliquent Wynn et Will Butler.
Quand on fait des disques, on ne s'arrête pas de vivre dans le monde réel et d'être des humains. Et être un humain, c'est être connecté au monde avec ces moments si beaux, mais aussi si atroces qui se passent dans notre histoire contemporaine. Cela a toujours fait partie de notre processus créatif. Parfois, c'est de façon très consciente, mais on essaie d'en faire un grand tout.
C'est aussi la première fois que l'album a été fait en dehors de Montréal. On a beaucoup enregistré à la Nouvelle-Orléans et un peu à Paris. Et à Paris, c'était après l'attaque de Nice. Il y avait une atmosphère étrange.
Wake Up, le morceau d'ouverture du concert d'Arcade Fire aux Nuits de Fourvière lundi dernier. Un concert où les Canadiens, Mathieu, ont aussi joué de nouveaux morceaux, des titres produits entre autres par un Français.
Oui, c'est un peu l'événement dans l'événement. Les Arcade Fire ont en effet travaillé avec Thomas Bangalter et Daft Punk pour ce nouveau disque. Et même si l'album ne sonne pas vraiment électro, c'est une relation de confiance qui s'est installée entre le producteur français et Arcade Fire, comme le confirme Wynn, le chanteur, et son frère Will au clavier dans le groupe.
Même si notre musique n'est pas la même, on pense l'art et la musique de la même façon. C'est aussi le cas de Steve Mackey de Pulp. Et pour nous, c'est essentiel. Vous savez, s'ils disent que quelque chose est bon ou mauvais, on sait qu'ils ont bon goût. Mais bon, le problème avec les robots, c'est la maintenance. Les batteries à plat, il faut les changer, c'est ennuyeux.
Mais je crois que les Daft Punk marchent désormais à l'énergie solaire. On a dû parfois les alimenter en diesel pour les faire fonctionner.
Everything Now, le morceau qui donne donc son nom au futur album d'Arcade Fire qui sortira fin juillet, Mathieu. Et Arcade Fire, il faut le rappeler, c'est d'abord une affaire de famille.
Oui, alors vous le savez peut-être, Régine et Win, les deux chanteurs sont en couple, et Will, le clavier, est le frère de Win. C'est en fait le grand-père de Will et Win qui a inspiré le son du groupe, un mélange de swing jazz et de rock.
J'ai pas suivi, moi.
Will et Win, ils sont frères. Donc Win c'est le chanteur, Will D'accord. c'est le clavier, et leur grand-père donc a fait un mélange de dans sa vie, il a été donc musicien, il a fait un mélange de swing jazz et de rock, c'est ça qui a donné Arcade Fire comme il l'explique tout de suite.
Our grandfather played in big bands.
Notre grand-père jouait dans des big bands. Et je crois que cette ère du jazz a été l'un des grands moments de l'histoire de la musique américaine. Les plus grands compositeurs venaient de là. Le truc qui a amené le rock, c'est l'énergie pure. Et c'est cette énergie qu'on essaye d'exploiter avec notre groupe. On se ressent les uns les autres sur scène. Voilà ce que c'est d'être un descendant du rock'n'roll.
Et ça, ça nous rappelle pas mal de choses, Mathieu. Arcade Fire avait eu la chance, sur leur avant-dernier album, de rencontrer David Bowie.
Oui, en fait, pendant qu'Arcade Fire enregistrait Reflector, Bowie, lui, travaillait sur les morceaux de son ultime album, Black Star, et Win lui avait alors demandé de poser quelques voix sur un morceau. Bowie avait accepté, sans savoir que ce serait sa dernière collaboration avant sa mort. Un souvenir inoubliable pour le chanteur d'Arcade Fire.
I mean, in retrospect...
Rétrospectivement, quelle chance d'avoir collaboré avec lui sur Reflector. Passer ces tout derniers moments avec lui en studio. Je me souviens, c'était dans le studio où il avait enregistré le titre Fame avec John Lennon. Il nous a beaucoup donné. Et c'est drôle, avec Régine, on lui a acheté une peinture ancienne pour le remercier pour Reflector. C'était un tableau abstrait, un symbole vaudou. Et en fait, ça représentait des soleils noirs. Black Star, le nom de son dernier disque. Ça a été une énorme perte. Je ne me souviens pas que le monde se soit senti aussi lourd après la perte d'un artiste.
Voilà, inoubliable David Bowie sur ce titre, donc Reflector, Arcade Fire en live aux Eurocaennes de Belfort, ce sera le 9 juillet prochain. Les Arcade Fire, je le redis, qui ont choisi France Inter pour leur première interview avec vous, Mathieu Culeron. Interview à retrouver en intégralité, bien sûr, sur franceinter.fr.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h55, l'heure de l'édito. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Alors ce soir, on revient Anthony sur le conflit entre le Qatar et ses voisins du Golfe. Un conflit où la question du gaz naturel n'est jamais très loin.
Or, elle a été un peu oubliée cette question gazière. Comme si personne ne savait que le Qatar était avant toute chose assis sur les plus importantes réserves de gaz naturel au monde, mais surtout les moins chères à extraire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gaz qatari peut être liquéfié et envoyé avec profit dans le monde entier, avant tout en Europe d'ailleurs, par méthanier. Or, cette énorme richesse gazière, qui n'a commencé que depuis 20 ans, est à la source de tous les ennuis d'aujourd'hui. D'abord, c'est une richesse que le Qatar partage avec l'Iran. Autrement dit, le pays doit être conciliant avec son voisin de l'autre rive du golfe Persique. De plus, c'est une richesse qui rend Doha totalement ou doublement indépendant. D'une part, le gaz est une ressource qu'il est à peu près le seul à exploiter sérieusement dans la région. Ce qui signifie que le Qatar n'a pas besoin de passer par l'OPEP, par exemple, qui est un cartel uniquement pétrolier, largement dominé par l'Arabie Saoudite. D'autre part, le gaz est une ressource d'avenir. Même les États du Golfe, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite en tête, en ont besoin pour leurs centrales électriques. Or, le Qatar n'a jamais voulu le leur fournir à prix d'amis, ce qui a le don d'agacer ses voisins couronnés.
Ce qui veut dire clairement que l'Arabie Saoudite ne supporte pas cette indépendance.
D'une façon générale, pour tout vous dire, l'Arabie Saoudite ne supporte aucune velléité d'indépendance de la part de ses voisins. Elle contrôle tout et avec une certaine brutalité quand il le faut. Elle aspire au leadership sunnite et ce n'est pas l'émir du Qatar qui va le lui contester. Mais tant que le Qatar suivait la route tracée par l'Arabie Saoudite, de petits écarts étaient encore possibles. Or récemment, les choses ont commencé à se gâter. Le Qatar s'est non seulement rapproché des Iraniens, mais surtout de la Russie et du Syrien Bachar el-Assad. Pour comprendre Londres, il suffit d'ouvrir une carte. Si les Qataris veulent une nouvelle route pour évacuer leur gaz, une route qui ne passe pas par les détroits maritimes saoudiens ou le canal de Suez égyptien, il lui faut un gazoduc. Or, ce gazoduc doit nécessairement passer par le Koweït, l'Irak et la Syrie avant de déboucher en Turquie. Or, regardez bien les pays qui soutiennent aujourd'hui le Qatar contre l'Arabie Saoudite. Le Koweït s'est proposé comme médiateur et la Turquie veut envoyer des troupes à Doha. Reste la Syrie. Jusqu'à récemment, il faut savoir que le Qatar a dépensé sans compter pour armer les rebelles et djihadistes syriens. C'est même le pays qui a le plus dépensé dans la région. 3 milliards de dollars au bas mot. Ça, c'était avant que la Russie ne se rende maîtresse du jeu syrien. Depuis, les Qataris ont multiplié les voyages à Moscou et bingo, une alliance s'est nouée et les Qataris sont même tombés d'accord avec les Russes pour investir 2,7 milliards de dollars, leurs poches sont profondes, dans Rosneft, vous savez, une entreprise d'hydrocarbures d'État russe. Ça, c'était l'année dernière.
Et ils se retrouvent du coup en opposition directe avec l'alliance sunnite des Saoudiens.
C'est même pire que cela. En topant avec les Russes, en ménageant les Iraniens, en soignant les Turcs, les Qataris sont non seulement en train de contourner l'Arabie Saoudite et son alliance sunnite, mais sont en train de proposer une alliance de revers. Une alliance qui, pour beaucoup de pays musulmans qui ne veulent pas entrer dans l'obsession anti-chiite de Riyad, eh bien serait la bienvenue. C'est le cas du Koweït, de l'Irak, mais aussi d'un pays comme le Pakistan, qui a refusé d'envoyer ses soldats au Yémen. Autrement dit, les prises de position qatariques commençaient à dessiner un monde plus désirable, où l'Iran ne serait plus le paria du monde musulman, où les sunnites, où sunnites et chiites pourraient s'entendre. C'est insupportable pour l'Arabie Saoudite. Elle a donc saisi une des dernières occasions de peser sur Doha, un blocus économique avant qu'un nouveau port commercial qatari en eau profonde ne soit inauguré. C'est dans quelques mois, c'était maintenant ou jamais, mais ça reste un pari très très risqué.
Anthony Bélanger, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur l'avenir de l'agriculture française. Toutes vos questions à notre invité unique ce soir, présence rare, la nouvelle présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Un numéro 01 45 24 7000 et dans quelques secondes, le journal de 19h.